Jésus, nous te remercions pour ta présence, Seigneur, pour ton esprit. Répands richement ton esprit, afin que nous soyons tous conduits par l'esprit. Oui, bénis le fait de parler et le fait d'entendre. Nous te louons pour ton œuvre magnifique dans l'Église, dans l'unité, dans tout ce que tu nous as aussi révélé jusqu'à présent. Nous te remercions, Seigneur, pour tes richesses dans ton Église. Oui, nous continuons. Et voulons nous poser la question aujourd'hui. Quel est le cadre pour l'unité que nous devons maintenir? Quel est le cadre extérieur? Cette phrase est très importante. Cette question est très importante. Tu ne peux pas donner cette parole de l'unité partout. Dans un groupe, dans une dénomination, ou que ce soit dans les grandes églises. Mais nous devons poser la question, quelle est l'unité que montre l'Écriture, le cadre dans lequel, duquel parle l'Église? Et ça, c'est l'unité, le cadre dans lequel est cité l'unité, le cadre, c'est l'Église dans le lieu où nous vivons. Revenons en arrière. Quelle est la volonté de Dieu? Par rapport au verset qui exprime de manière très claire la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? C'est que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification et c'est aussi l'édification de l'Église. Et comment Dieu va-t-il accomplir sa volonté? Par son Fils Jésus-Christ. Tout ne passe que par son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui l'a présenté comme la personne. Avec cette personne, il s'est identifié. Nous devons savoir que pour l'éternité, Jésus était un avec Dieu et il le sera toujours. Mais à un moment précis, Jésus-Christ est devenu chair. Et Dieu a témoigné de cette personne en disant, ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, je prends plaisir en lui. C'est magnifique un tel homme. Glorieux que Dieu dise cela d'un homme. J'aimerais aussi vivre ceci, que Dieu puisse dire ceci de moi. Et je sais également quel est le chemin. Le chemin s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même. Dieu a tout placé en Jésus-Christ. Pour nous le donner à chacun d'entre nous par la nouvelle naissance après sa mort et sa résurrection. Et cela est déjà fait. C'est magnifique de mener une telle vie et d'avoir un tel Seigneur en nous pour que nous puissions vivre une telle vie. Dans Romains 8, verset 32, il est dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça, c'est le chemin employé par Dieu pour nous, le chemin de Dieu. Et dans 1 Corinthiens 1, au verset 30, il dit, or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. Tu n'as pas besoin de plus, de la justice, la sanctification, jusqu'à la rédemption. Nous avons commencé avec la justice que nous avons reçue, le pardon de nos péchés. Et la justice de Dieu, nous l'avons acceptée. La sanctification est notre processus de vie actuel. Nous voulons croître dans le Seigneur et être sanctifiés de part en part. L'esprit est déjà sanctifié. Maintenant, c'est autour de l'âme. Et à un moment donné, ce sera aussi notre corps qui sera transformé, comme celui du Seigneur. C'est magnifique. Et c'est pour cela qu'il est tellement important que nous connaissions Jésus-Christ. Nous devons toujours le lui demander. Seigneur, j'aimerais plus te connaître. Pas seulement quand quelque chose se produit, quelque chose de terrible, d'inattendu, que nous disons, Seigneur, je ne te comprends plus du tout. Oui, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas comprendre dans nos vies. Mais lui, j'aimerais encore plus le toucher, le connaître, avoir de la communion avec lui et aussi entreprendre quelque chose ensemble avec lui. C'est une vie merveilleuse. Ceci, le Seigneur l'a accompli pour nous. J'aimerais parler de trois prophéties concernant la croix. Ce sont des prophéties particulières concernant le Seigneur et sa mort. Toutes les deux sont écrites dans l'Évangile de Jean. L'une dans le chapitre 1, l'autre dans le chapitre 11. La prophétie de Jean le Baptiste, où quand il voit Jésus et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est une immense révélation. Pierre aussi a une telle révélation plus tard, que le Seigneur Jésus-Christ est le Christ. Et Jean-Baptiste était un représentant typique de l'ancienne alliance. Et de lui, le Seigneur a dit, il est le plus grand dans l'ancienne alliance, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et il a reçu cette révélation de Jésus. Deux fois, ça a été dit dans ce chapitre. Jésus, voici l'agneau de Dieu. Et la deuxième révélation a eu le souverain sacrificateur qui a prophétisé peu de temps avant que Jésus ne fût fait prisonnier. Je lis. Peut-être que quelqu'un d'entre vous peut le lire. C'est Jean 11, le verset 49 jusqu'à 52. Donc l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et cela n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.
Amen.
Ça, c'est une prophétie particulière de quelqu'un qui veut tuer Jésus. Il prophétise. Il prophétise. Vous n'y réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il le dit. Oui, Jésus est mort pour le salut. Mais lui, il avait des choses mauvaises en tête, le sacrificateur. C'est une prophétie surprenante. Mais le Seigneur a aussi été annoncé de cette manière-là. Sa mort a été annoncée.
Ce
n'était pas seulement Ésaïe, c'est aussi le souverain sacrificateur. Ésaïe avait un regard positif et le souverain sacrificateur avait un regard méchant. Et Dieu est ainsi. Dans Genèse 49, les frères aussi viennent vers Joseph parce qu'ils ont peur qu'après la mort de leur père, Joseph pourrait leur faire du mal. Et alors il leur dit, il était très déçu de cette question des frères. Et il a même pleuré. Il a dit, oui, vous avez planifié de me faire du mal. Mais Dieu a planifié ou a prévu de tout changer en bien. C'est ainsi. L'homme planifie de mauvaises choses. Et Dieu peut aussi en faire de bonnes choses. Seigneur Jésus, donc là, il y a deux aspects de la mort qui ont été révélés. Donc, premièrement, le salut du jugement, le salut du peuple entier. La deuxième chose, c'est que par la mort de Jésus, il amène ensemble, pas seulement les Juifs, mais aussi ceux qui croiraient par la suite. Il les rassemblera également. Et quand on pense à la mort qu'il a subie, ou par laquelle il est passé, pardon, ce n'était pas une mort facile. C'était pas simplement comme ça, allez, il meurt. Non, c'était une mort terrible qui a duré longtemps, lié à beaucoup de souffrances, et tout cela afin que nous soyons un, afin que nous puissions être amenés ensemble dans l'unité. Tout cela dans l'obéissance au Père, il l'a fait ainsi. Quand nous y réfléchissons ainsi, nous péchons peut-être et ensuite nous nous repentons et reconnaissons aussi, ok, le Seigneur est mort pour cela et j'ai péché de manière tellement légère. Cela nous fait, nous sommes désolés, mais nous sommes sûrs et nous faisons confiance au Seigneur. Il nous a pardonné nos péchés. Mais quand nous blessons l'unité, nous n'avons pas une telle sensibilité ou un tel ressenti que le Seigneur est mort pour l'unité. Sa croix a été là pour l'unité. Combien de fois devons-nous repentir quand nous blessons l'unité? Nous devons nous repentir autant si nous blessons son unité. Nous en avons entendu tant parler. Cette unité, c'est la sienne. C'est l'unité divine dans laquelle nous avons été amenés. Blesser cette unité-là est aussi un péché très grave. Oui, cela peut nous apprendre quelque chose quant à notre marche personnelle, quotidienne, ou avec nos conjoints, avec ma femme, avec les frères et sœurs autour de nous. Que le Seigneur puisse nous donner une telle sensibilité que nous ne détruisions pas son unité, que ce soit par une émotion ou par des plans, des projets, peu importe. c'est un péché grave. Dans les pensées. Oui, nous péchons de nombreuses manières. Le Seigneur est mort pour l'unité des croyants. Il a vécu pour l'unité des croyants. Il nous a donné un exemple. Mais il était victorieux. À la fin, il a prié pour l'unité des croyants dans Jean 17, peu avant sa mort. C'est une prière pleine de puissance, d'engagement, pleine d'engagement. Il a prié que nous soyons tous un. Et le Père a entendu sa prière. C'était une prière selon la volonté de Dieu. Et de suite, peu de temps après, 5 semaines après, Dieu a commencé d'un seul coup à bâtir l'Église dans l'unité. À part qu'il ait insufflé son esprit le jour de sa résurrection, le jour de la Pentecôte, il a déversé l'esprit. Et l'Église commence tout de suite avec des milliers. Si nous, d'un moment à l'autre, nous étions confrontés avec des milliers de personnes, je crois que nous aurions de grands problèmes. Non, n'est-ce pas vrai? Si l'un après l'autre rentre, on peut s'en occuper, pensons-nous. Mais les disciples à l'époque, ils ne pouvaient pas faire cela. Ils ne pouvaient pas s'occuper. Et ils ont pleinement eu confiance dans l'Esprit. L'Esprit l'a fait. L'Esprit a provisionné ces gens. Et quand nous croyons que l'Église est bâtie par le Seigneur et quelque chose de ce genre se produit, alors il nous faut aussi faire confiance que l'Esprit va continuer de bâtir l'Église. Loué le Seigneur. Il le fera. Peut-être aussi qu'il nous surprendra une fois. Aussi longtemps nous allons prier et exercer notre esprit pour que nous soyons préparés à cela. Le Seigneur a commencé avec l'Église à Jérusalem. Puis cela a continué en Samarie et dans les pays environnants. Et il y a eu de plus en plus d'églises qui sont venues en existence, chaque fois dans leur lieu. Et plus tard à Antioche, dans le nord de la Syrie. Partout, des églises ont été créées, les unes après les autres, chaque fois dans leur lieu. Ça, c'est très clair. Dans Actes 8.1, il est parlé de l'Église à Jérusalem. Puis, dans 13.1, on a l'Église à Antioche. Romains 1.7, l'Église à Rome. Dans Galates 1, verset 2, les Églises en Galatie. Parce que la Galatie était une région, mais ce n'était pas une église dans la Galatie. Ce sont les églises en Galatie. Et pour finir, nous en avons même dans Apocalypse, les 7 églises dans la région d'Asie. Et le Seigneur a pourvu pour toutes les églises. Il s'est occupé d'elles en tant que le bon berger. Le bon berger pour les églises. Et même dans le dernier chapitre, au chapitre 22, verset 16, le Seigneur parle des églises. Le Seigneur s'occupe vraiment des églises. Et ce sont chaque fois des églises locales, dans un lieu. On ne peut pas passer sans voir les attaques sérieuses de l'ennemi face à l'église, commençant par l'église à Jérusalem. Mais le Seigneur l'avait prévu. Dans Matthieu 16, il avait dit, je te dirai, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Où sont ces portes? Où sont-elles, ces portes de l'enfer? Où sont-elles? Les portes du séjour des morts. Comment peut-on les décrire? C'est difficile à dire. L'ennemi est rusé, caché. Il attaque de l'extérieur et de l'intérieur, de préférence des deux côtés. Il a sa stratégie. Il combat. Et ce qui le dérange le plus est la nature de Dieu dans l'Église. S'il n'y a pas de nature, c'est bien. Ok, une organisation, elle peut exister des siècles durant, sans que l'ennemi l'attaque, parce que c'est lui qui règne là-bas, à l'intérieur. Et c'est le monde, comme lui-même règne dans tout le monde. Mais à partir du moment où nous avons l'Église, l'opposition commence. Nous l'avons vécu il y a 50 ans. Nous sommes simplement sortis dans les champs et nous avons proclamé. N'est-ce pas, Margaret? Margaret, nous sommes ici. Nous sommes ici, l'église à Fribourg. Nous l'avons simplement proclamé. On a chanté quelques chants. Et le lendemain, l'opposition a commencé. Nous n'avons pas le droit d'être naïfs. Il y a des attaques de l'ennemi, jusqu'au point que des gens vont être tués. Nous n'avons pas vécu, nous, qu'une personne parmi nous soit tuée, mais spirituellement, tué par des paroles méchantes, mauvaises. Mais le Seigneur nous a aussi, ne nous a pas seulement donné un avertissement dans Matthieu 16, mais nous a donné également une aide. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, c'est volontaire, qu'il renonce à lui-même. À lui-même est toujours une porte que l'ennemi peut utiliser, une porte d'entrée. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tu peux dire qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Le fait de me charger de ma croix, en fait, c'est la croix du Seigneur. C'est le crucifié lui-même que nous prenons. Cette expérience-là me préserve de l'ennemi, me protège de l'ennemi et protège l'Église de ma chair. Il est bon que nous le fassions souvent, que nous y pensions à temps. Par exemple, je suis en plein dans une discussion et ça commence un peu à chauffer. Et là, je remarque, maintenant, retiens-toi. Ça veut dire se renier soi-même. Pourquoi ? Pour la volonté du Seigneur, pour la volonté du Père. Le Seigneur a donné, a renié sa vie tout au long de sa vie. Ne penses-tu pas qu'il a eu sa propre opinion, ses propres désirs ? Mais son but était en tout temps d'être obéissant au Père. Il est bon de lire ce genre de choses et de le prendre aussi pour soi. Oui, Seigneur, je voudrais aussi être obéissant. Je veux faire ce que fait mon Père et ne pas faire ce que ne fait pas mon Père. Souvent, nous n'avons un frein que quand nous disons « Je ne veux pas faire ce qui ne plaît pas à mon Père. » Bah, mon Père céleste, naturellement. Oui, je ne fais pas ça parce que j'aime Dieu. Mais j'aimerais aussi arriver au point où que vous vouliez tous faire ce que le Père aime, vouloir faire ce que le Père aime. Nous sommes importants pour le Père. Il voudrait nous inclure dans cette édification de sa maison. Nous avons entendu comment ce matin nous pouvons participer activement à l'édification de l'Église. Et ainsi, nous procurons de la joie au Père. Alors que j'ai donné mon premier témoignage dans l'Église, je me sentais tellement bien que j'ai dit, je recommencerai. C'est une bonne expérience. Nous devons les multiplier. Nous remarquons simplement, Dieu est là et il se passe quelque chose, oui. Cela me réjouit. Et en plus, il y a un approvisionnement. Oui, je n'étais pas une personne qui parle beaucoup et surtout pas devant une assemblée un peu plus grande. C'était jamais ma chose, entre guillemets, mais j'étais vraiment encouragée. Je veux encore une fois expérimenter cela. Et j'ai continué à l'expérimenter. Donc c'était pas seulement une expérience et après c'était tout. Non, chaque fois. Quand j'apportais quelque chose de positif du Seigneur, quand je voulais dire quelque chose, j'avais l'approvisionnement. Louez le Seigneur. Nous voulons faire cela aussi, avec plaisir. Donc, les attaques de l'ennemi, il faut toujours les avoir à l'œil. Jérusalem, de suite, fut attaquée par les oppositions. Les personnes ont perdu leur maison, Jacques a été tué. Ça a été vraiment une persécution très sérieuse. Et ils ont fui dans les environs de Jérusalem. Et prenons aussi, maintenant voyons l'avertissement de Paul dans Acte 20. Qu'il a dit alors que probablement il a parlé aux anciens d'Éphèse, où il a dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, des loups cruels qui viennent de l'extérieur, qui rentrent. » Donc vraiment, des hommes envoyés par l'ennemi, ou des femmes, hommes ou femmes, je ne sais pas, et qui s'élèvera du milieu de vous. L'ennemi travaille aussi de l'intérieur. Et du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Donc, du milieu de vous, des hommes, des hommes se lèveront et créeront des divisions pour les entraîner après eux. Suivez-moi. En fait, nous ne devons suivre que le Seigneur, et non pas des hommes. Mais ça, c'était l'avertissement de Paul, spécialement concernant une prophétie. En fait, je pense que cela, il a écrit aux Éphésiens après avoir écrit l'Épître aux Corinthiens. L'expérience de Corinthe l'a sûrement poussé à écrire cela aux Éphésiens. Et comme il a aussi visité les églises, il a dû avoir d'autres expériences. Et toujours est-il, nous voyons aussi à Corinthe, nous voyons travailler l'ennemi à Corinthe. Ça, il semble inoffensif. À Corinthe, il y avait différents apôtres. Ils ont prêché là-bas l'évangile et ont baptisé des personnes. Alors, il s'est formé. Peut-être qu'un groupe a commencé. Oh oui, Apollos est le meilleur. Donc, lui, il a une telle puissance dans sa parole. Et lui, il peut faire simplement quelque chose. Et nous, nous sommes pour Apollos. Alors, les autres ont pu se sentir, ah non, 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 nous sommes pour Pierre, à cause de ci. Et ensuite, il y avait ceux de Paul. Et nous, nous sommes pour Paul. Paul est le plus grand. Et moi, j'ai même été baptisé par Paul. Être baptisé par Paul. Ça, naturellement, ça, ce sont des choses. Et on peut s'en glorifier d'avoir été baptisé par un apôtre de Jésus-Christ. Donc c'est quelque chose de grand. Donc moi je suis pour Paul. Et nous connaissons sa réponse. Nous le savons. Je le relis dans l'un d'entre vous dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apoll, moi je suis de Céphas, et moi je suis de Christ. Il y avait même un groupe qui disait, je suis de Christ. Et vous vous trompez, nous sommes de Christ. Nous sommes le groupe spécial, nous sommes pour Christ. 1 Corinthiens 1, 12. Mais Paul critique aussi cela. Pourquoi? Il dit, Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Même cette quatrième groupe qui est tellement pour Christ, qui est tellement pour la vie, ils se séparent parce qu'ils sont pour la vie et les autres sont pour Paul. Je peux faire rapidement encore un schéma. Nous avons ici la ville de Corinthe, donc une grande ligne au milieu donc de cette ville. Sur le schéma, on a les limites de l'église qui suivent les limites de la localité. Et donc ici, on a le groupe, un dessin pour le groupe de Paul, de Pierre, d'Apollos et de Christ. Donc, Pierre, Paul, Apollos et Christ. Et que dit Paul? Arrêtez avec vos groupes. Laissez tomber cela. Afin que de nouveau, il n'y ait qu'une seule église à Corinthe. Une seule église à Corinthe. Et il prend trois chapitres et même un verset dans le quatrième chapitre pour le expliquer. La chose prochaine qu'il dit, Christ a-t-il divisé, Paul a-t-il été crucifié pour vous? Aucun apôtre n'a été crucifié pour nous. Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ce serait une blague, non? Nous avons été baptisés dans le nom du Dieu trinitaire. Le baptême est un pas essentiel. Mais n'y mélangeons pas celui qui baptise. Où est-ce qu'on aboutit dans ce cas-là? Qu'on dise, Paul parle d'abord de la croix pour de telles choses qui suscitent de tels groupes, nous avons besoin de la croix. Et ensuite, il parle de l'esprit. Et ensuite, il dit de n'élever aucune personne. L'un arrose, mais Dieu donne la croissance. Et maintenant, je vais faire un saut directement au témoignage d'aujourd'hui. Le témoignage d'aujourd'hui. L'unité de l'Église dans chaque localité. Louez le Seigneur, nous avons ici un témoignage dans l'Église. On peut le voir. C'est un témoignage face au monde, mais aussi face à la religion. Les religions, je veux dire par là, le monde religieux, entre guillemets, mais aussi face aux croyants qui sont éparpillés dans la religion. Nous avons un témoignage ici, et dans chaque lieu, chaque localité, dans beaucoup de localités en Europe, en Asie, en Afrique, dans l'Est de l'Afrique, aux USA, il y a un témoignage. Chaque fois, dans la localité, il y a une église. Une église dans le Seigneur. Qu'avons-nous fait? Supposons que le schéma qui est représenté là représente Stuttgart. À Stuttgart, je pense qu'il existe, je n'en sais exactement, je ne sais pas combien. Disons voir qu'à Stuttgart, il y ait 10 000 chrétiens. Combien pensez-vous qu'il y ait de groupes qui officiellement sont enregistrés dans un organisme particulier? Des églises chrétiennes, des communions chrétiennes. Combien estimez-vous qu'il y en ait à Stuttgart? Je sais, dans cet organisme, je sais qu'il y en a 70. Nous ne faisons pas partie de cela. Mais il se peut très bien qu'il y en ait plus que 100, facilement. Donc, plus de 100 groupes. Donc, le frère dessine plein de petits cercles qui représentent tous ces petits cercles qui sont sur le domaine de Stuttgart. Et dans cette situation, que dirait Pierre? Où est l'Église? À Stuttgart, ou à Bonn, ou Karlsruhe? Beaucoup de groupes, beaucoup d'églises, mais pas d'église. Et c'est pour ça que nous avons décidé de sortir. Et donc là, le frère dessine des flèches qui sortent de ces petits groupes qui se retrouvent simplement à l'extérieur de ces petits groupes. Voilà, plusieurs petites flèches. Sortir des groupes, des divisions, sortir des divisions pour bâtir l'église dans la localité. Naturellement, nous nous appuyons sur la parole qui juge de manière définitive les divisions entre les chrétiens. Et nous avons de nouveau bâti l'église à Stuttgart. Cela a commencé de manière très petite. Il y a toujours encore énormément de groupes. Alors tu peux dire, il y a encore un groupe de plus maintenant. Oui, si on le voit du point sociologique pur, nous sommes un groupe. Mais en prenant la parole de Dieu et également par notre conduite par le Saint-Esprit, nous sommes l'Église. Nous avons dit au Seigneur, nous voulons être ton Église. Nous ne voulons pas être une division supplémentaire. Seigneur, fais-le, que toi tu obtiennes ton Église comme cela te plaît à toi. Comme cela te plaît à toi. Seigneur, bâtis avec nous ton Église. Ce que nous sommes, nous voulons l'être pour toi, indépendamment d'une organisation, indépendamment des personnes influentes. Et nous ne voulons travailler avec aucune organisation. Devant des hommes très influents, nous sommes très prudents parce que nous avons fait de mauvaises expériences. D'abord, ils sont très spirituels et ensuite, ils ont eux-mêmes créé des divisions. Suite à des raisons très personnelles, propres. Mais je dois dire que le Seigneur nous a conduits, nous a portés 50 ans durant. Et ce que nous pouvons reconnaître, c'est que le Seigneur, durant toute cette période, ne nous a jamais ôté son approvisionnement. Toujours il a béni et il va continuer à bénir si nous sommes fidèles et si nous tenons son unité, si nous faisons attention à ce que personne ne s'initie là-dedans, que ce soit de l'extérieur ou des loups cruels ou de l'intérieur, quelqu'un qui se lève et par ses enseignements et pratiques, attire des personnes à lui ou à elle et puis les emmène. Louez le Seigneur. Nous pouvons être tranquilles si nous faisons confiance au Seigneur. Nous pouvons être en paix. Nous pouvons être dans la vie et pleinement être dirigés par lui. Nous vivons par le Seigneur. Et quand des difficultés se produisent, nous ne sommes pas à l'abri du fait que quelqu'un se lève et qu'il fasse des problèmes. Il n'y a pas d'assurance contre eux pour l'unité. C'est quelque chose de très très sensible. L'unité, la personne du Seigneur. Très, très sensible. Nous n'avons pas le droit de blesser l'esprit. J'ai entendu un jour que l'esprit s'envole comme une colombe. Nous voulons inviter l'esprit. Nous voulons avoir la vie. Et quand nous avons la vie de l'Église, alors regardons dans la parole comment était la vie d'Église au début. Ça, c'est aussi la pratique aujourd'hui. Beaucoup de paroles. Beaucoup de communion. Beaucoup de prières. Qu'est-ce que cela? Ça, ce sont des aides, des instruments. C'est pas des méthodes. Mais ceci amène le Seigneur dans notre communion. Cela nous apporte plus cette conscience. Oh, je suis un membre du corps. Je suis important pour le Seigneur. Je veux remplir ma fonction. Seigneur, montre-moi mon chemin. Seigneur, je suis un membre du corps. Je veux me donner pour toi et pour ton Église. Oui, nous avons besoin de plus nous consacrer. Toujours plus nous consacrer. Louer le Seigneur pour les vieux combattants qui ont déjà vécu beaucoup de combats, survécu à beaucoup de combats dans l'Église. Généralement, c'était pénible, mais il y a eu aussi des difficultés. Mais aussi dans les petites difficultés, elles doivent être vaincues en esprit. Toujours à nouveau, il y a des problèmes. Mais louez le Seigneur pour les frères et sœurs et les qui, en esprit, qui se sont manifestés assez vite, ont suivi le Seigneur de suite. Loué soit le Seigneur pour ce qu'il a fait. Nous sommes ici pour le Seigneur, pour son Église bien-aimée, son épouse, la plénitude. Et nous lui faisons plaisir quand nous maintenons l'unité de l'esprit. Et même, c'est un témoignage devant les puissances et les autorités, les dominations, face aux dominations et aux autorités, de voir ce que Dieu aujourd'hui fait sur la terre avec des hommes qui étaient déchus, tombés, ce que Dieu, en fait, c'est un spectacle pour eux. Pour l'ennemi, c'est un danger, une menace. C'est pour ça qu'il essaye de toutes parts de nous limiter. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Ces limites, il faut carrément les franchir. La parole, afin que la parole parvienne jusqu'aux hommes, la vérité qu'elle parvienne jusqu'aux hommes. Oui, nous sommes le témoignage de l'unité pour Dieu, face au monde, face aux gens, et face aux dominations et aux autorités. Et pour finir, vous les jeunes, vous êtes peut-être la troisième génération déjà. Louez le Seigneur. La deuxième génération s'est aussi levée, a porté le témoignage. Mais maintenant, il y a la troisième génération. C'est à son tour de porter le témoignage. Les jeunes, de continuer de porter ce témoignage. Nous, les plus âgés, nous n'avons plus qu'un temps limité. Mais vous, c'est à vous maintenant. Prenez, saisissez ceci. Levez-vous. Touchez le Seigneur. Laissez-vous conduire. Laissez-vous placer. Et soyez actifs pour le Seigneur dans la vie d'Église. Menez une vie crucifiée. Une vie crucifiée, c'est pas une grande chose, mais c'est simplement toujours à nouveau prendre le Seigneur dans toutes les situations. C'est lui le crucifié. Oui, je dois mourir. Je peux le dire, oui. Mais de manière pratique, je me tourne vers le Seigneur et je dis, tu es le crucifié, Seigneur. Certains jeunes gens, ou beaucoup de jeunes gens, ont de grandes difficultés avec la chair. Mais nous savons, ce n'est pas bon. L'impureté, l'impudicité, c'est pas bon. Cela me détruit moi-même. Le péché de l'impudicité est un péché contre mon propre corps. Alors, comment puis-je vaincre le péché de l'impudicité? Par le crucifié. Nous avons la chair, nous l'avons crucifié la chair, par le crucifié. Je me donne dans cette réalité même que je suis mort avec Christ. Il y a une puissance là-dedans, une force, une puissance. La puissance de la croix est plus forte que la sagesse des hommes. La croix est notre accompagnant continuel. Nous devons expérimenter très jeune la puissance de la croix et de vaincre par elle. Si ceci nous réussissons à la faire dans notre jeunesse, alors nous avons appris pour toute notre vie. Et nous en avons besoin pour toute notre vie. Ne pensez pas que les problèmes diminueront. Reniez-le-moi, prendre la croix, renier la vie de notre âme. Ça, c'est une vie, c'est une chose qui continue jusqu'à la fin de notre vie. Mais nous vainquons de loin par celui qui nous a aimés. N'est-ce pas? Seigneur Jésus. Oui, vous, les jeunes gens, jeunes filles, soyez forts. Jean a déjà dit, vous, les jeunes gens, vous êtes forts. La parole de Dieu vit en vous. Vous avez la parole de Dieu. Et vous avez vaincu le malin. Vous en avez sûrement déjà fait l'expérience que le malin est vaincu. Continuez ainsi. Frères et sœurs, vous êtes la génération de l'avenir. Le Seigneur attend beaucoup de vous, nous aussi, mais nos concepts, on les met de côté. C'est le Seigneur qui appelle les jeunes. Seigneur. Oui, l'Église. Pendant cette dernière année, toujours à nouveau, nous avons insisté là-dessus. Nous sommes l'Église aussi du premier amour pour le Seigneur. Et le Seigneur avertit dans Apocalypse, avertit les frères et sœurs dans l'épître à Éphèse, et toutes les églises doivent l'entendre, que nous ne devons pas abandonner notre premier amour. Éphèse l'a abandonné. Je pense qu'on ne l'a pas abandonné, mais il y a des possibilités d'agrandissement. En fait, comme on l'a déjà dit, cela doit devenir plus grand, cet amour. C'est pas seulement tenir l'unité, maintenir l'unité, mais bien plus. Le fait de s'approcher les uns des autres dans l'amour. Et c'est aussi le Seigneur en nous. Nous attendons simplement au fait que le Seigneur nous ouvre les yeux, que nous puissions avoir des relations dans l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Naturellement, c'est une attitude positive de cœur. Une acceptation à tout point de vue. Nous pouvons mieux le voir comment le Seigneur nous a aimés. Et de la même manière, nous aimons aussi les frères et sœurs. Et Jean écrit beaucoup dans sa première épître. Et il est même très, 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 très coupant dans l'épître, la première épître de Jean. Il dit même, celui qui n'aime pas son frère, il est jusqu'à présent dans les ténèbres. Jusqu'à présent dans les ténèbres. Donc, il nous faut déjà centrer sur l'amour du Seigneur en nous. Et celui qui aime les frères et sœurs aime aussi être là où sont les frères et sœurs. Il aime se rassembler. Oui, naturellement, en ce moment, c'est un peu difficile avec tout ce qui se passe, avec les réunions online. Mais on peut toujours encore avoir des réunions. Et il est bien de pouvoir se voir après la réunion. On voit tous les écrans qui s'allument et les frères et sœurs se voient. Oui, c'est beau. Louez le Seigneur. Nous nous aimons. Et nous ne voulons pas nous éloigner les uns des autres. Nous nous maintenons fermement les uns aux autres. Et les jeunes aussi sont tellement vite détournés. Mais nous les maintenons dans l'amour. Frères et sœurs, ce que nous vivons maintenant, que nous vivions cette unité divine, est une grâce incroyable. Nous ne pouvons pas mesurer cela. Quelle grâce le Seigneur nous donne ainsi. Laissez-vous tirer par cette grâce. Le Seigneur a déjà fait beaucoup, mais il voudrait encore faire plus avec nous. Et je dois dire également, dans la vie d'Église, depuis le début, ça a été une question de grâce. Pas par notre action. Certes, on a été actifs, on a fait des choses. Nous étions actifs. Mais c'est toujours à nouveau, ça a été la grâce. Et nous avons beaucoup travaillé avec la grâce. Le psalmiste dit, là où les frères et sœurs habitent dans l'unité, là vient la bénédiction du Seigneur. La vie jusqu'en éternité. La vie éternelle que nous, dont nous nous réjouissons est quelque chose qui existait déjà auparavant. Elle sera aussi plus tard, elle sera là. Elle est là. C'est la grâce. La grâce nous a éduqués, nous a attirés ensemble, nous maintient ensemble et nous amènera aussi jusqu'à la maturité. Et nous voulons demeurer dans cette grâce comme Pierre l'a dit dans 1 Pierre 5, le verset 12. C'est la véritable grâce dans laquelle nous nous maintenons. C'est la véritable grâce dans laquelle nous nous tenons. Que nous louions le Seigneur pour cette grâce. Laisse que nous allions de l'avant et continuons à saisir cette grâce.